L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Pour l'Afrique dans tous ses états, avec Marie-Claude Siakezak, nous avons commencé une nouvelle série. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine.
Alors, la dernière fois, vous avez commencé à nous partager votre blog d'aventurière africaine et une aventure qui se passe au Burkina Faso, à Bobo plus précisément, et vous avez évoqué les lieux dans lesquels les personnes qui ont besoin de soins, notamment en relation avec le VIH, se retrouvent dans un espace que vous nous avez décrit. Mais quel était votre rôle, Marie-Claude Siakezak, à ce moment-là, dans ces épreuves-là, pour ces personnes?
Alors, mon rôle, il était double. Mon rôle, il est d'abord déjà cette appartenance que je revendique, qui m'a donné d'ailleurs le nom de Sia, dans ce pays, dans cet amour de ce pays, dans le fait de vivre là-bas, au plus près des gens, avec les gens, de partager tellement de choses, d'émotions, de fêtes, de joie, de peine, etc., de chagrin, d'être sollicité en permanence pour des événements sérieux. Là, j'aurais pas le temps, mais il y a à un moment, un mariage, j'étais un peu la cheville ouvrière d'un mariage. Enfin, après, il y a des obsèques, il y a des baptêmes, etc. Et donc, déjà à ce titre-là, quand j'y vais, je suis partie prenante. Et donc, le matin, je me rends là-bas, au siège de l'association, et j'aide. Et après, j'ai ma casquette effectivement de psy, voilà, et j'ai fait pas mal aussi de formation dans ce pays. Et en tant que psy, j'ai une expertise, une analyse, on a fait des projets, on a aidé des projets, j'ai aidé à monter des groupes de parole pour les femmes infectées, pour les adolescents, puisque la prise en charge des adolescents s'avère très compliquée, très difficile, parce qu'un adolescent, par exemple, si lui-même n'est pas infecté, il va en vouloir énormément à ses parents, soit s'ils sont encore en vie, soit s'ils sont décédés, il va en vouloir au monde des adultes de l'avoir abandonné, soit s'il est infecté, il va refuser à ce moment-là le jeu de la vie et de la mort chez les ados, c'est assez répandu dans le monde entier, hein. C'est le jeu au jeu du foulard, ils jouent à plein de jeux dangereux, hein. La roulette russe, vraiment des choses comme ça. Ils veulent plus prendre leur traitement. Et donc, il y a des comportements adolescents qui posent problème à l'équipe, etc. Donc, ma casquette, elle est comme ça. Je suis invitée souvent à l'hôpital de jour pour justement faire un petit peu des synthèses par rapport dans les réunions de soignants. Enfin, voilà, si vous voulez, je mets mon expertise, ma compétence et ma connaissance là-bas du pays et puis, bon, de l'interculturalité un peu aussi pour au service de tout le monde. Voilà. Et à la demande, et je suis très, très sollicitée. Ne vous inquiétez pas, je ne m'ennuie pas. Hein.
Le projet de nos entretiens, Marie-Claude Siakezak, c'est justement de revivre ces voyages en Afrique, au Burkina, à partir de votre blog que vous avez tenu pour tous ces voyages sur le site unitaire.com. Et votre page
Cœur de Sia, ça s'appelle.
Cœur de Sia, voilà, Cœur de Sia, on vous retrouve sur le site Unitaire. Après ce premier épisode, comment on continue, Marie-Claude?
Alors, on continue, mais je vais vous raconter, par exemple, quelques expériences vécues au sein de l'association, où là, à la fois, je suis spectatrice, et puis, dès que c'est possible, et ça arrive souvent, je deviens actrice aussi, pour apporter mon soutien, mon aide, etc., mon écoute. Alors, par exemple, je vous dis, le temps s'écoule tranquillement, alors que les cœurs sont souvent bousculés par toutes les difficultés. Donc, c'était en continu de mon séjour. Au siège viennent toutes ces femmes, la plupart infectées, avec leurs enfants. Elles trouvent ce courage de mille et une petites activités, les mettant en lien. Mille et un mots en doula, la langue régionale, qui est dérivée du Bambara, qui les rend complices et va chercher les rires derrière les drames. Depuis 3 jours, Ami revient avec le sourire, alors que la semaine dernière, elle a déboulé ici, avec une colère terrible de sa grande sœur, dans la cour familiale qui a dégénéré. Ça a dégénéré et elle avait l'oreille en sang et on a dû la recoudre et elle s'enclotait, sa réputation gâtée, parce que sa sœur avait crié à tous sa séropositivité Et donc, c'était la honte sur la famille et sa honte. Et il faut savoir que au pays, d'ailleurs, on le constate, même peut-être encore ici, malgré l'évolution des mœurs, tout le monde ne dit pas la séropositivité. Et là-bas, c'est encore plus, parce qu'en plus, il y a les croyances, il y a tout ce qu'on veut. Et puis, il y a quand même l'ostracisme qui existe, comme chez tous les humains. Et donc, elle avait été recueillie, il a été abandonnée par son mari, à l'annonce d'ailleurs du diagnostic. Souvent, les hommes s'en vont, alors que c'est souvent eux qui contaminent leur compagne, leur femme. Et donc, elle se tenait dans un coin, elle n'en parlait pas, donc elle était arrivée très, très en colère, elle s'en était suivie, le décollement de l'oreille, quoi. Voilà. Nous nous sommes donc déplacés sur la moto de Christine et avons rencontré son grand frère, militaire, chez qui elle s'est réfugiée à la caserne. Nous avons causé, puisque vous voyez, elle n'avait pas de domicile, et là, dans cette cour familiale, c'était insupportable pour elle, avec tout ce discrédit qu'on avait jeté sur elle. Donc, le grand frère est intervenu avec bonté et sagesse. Donc, en plus, un militaire, donc, c'est quand même, ça fait autorité. Et il a expliqué que Annie n'était pas du tout une dévergondée, etc. Et que elle se comportait très, très bien et que à l'association, elle avait une place honorée, importante, etc. Et donc, apparemment, depuis la semaine dernière, tout est rentré dans l'ordre et elle revient ici avec un bébé au dos, mais c'est pas son bébé, c'est un bébé d'Aldi, bien sûr, qu'on recueille ou qu'on nourrit au biberon pour les protéger de la séropositivité de leur mère. Donc, Annie avait repris sa vie active et solidaire, je dirais. Et puis, je vais vous parler aussi d'Hortense, qui était une petite jeune fille. Elle était préado, je crois. Toute petite, toute menue, toute négrichonne, avec un visage émacié dans lequel brillent deux yeux pleins de courage et de volonté. Le diagnostic qui avait été posé alors qu'elle allait consulter le pédiatre pour la reprise de la trithérapie, puisqu'elle avait la seule maladie, elle avait en plus une pneumonie. C'est vrai que souvent, il y a des problèmes adjacents très importants. Elle est sous antibiotiques, brûlante de fièvre. Elle est venue le jeudi pour le soutien scolaire, tant sa rage d'étudier est forte, alors même qu'elle ne peut envisager pour elle la sixième au vu de son âge. C'est-à-dire qu'elle devait avoir déjà 14 ou 15 ans, je suppose. Elle en faisait même pas 6. Hein. Elle avait même oublié de manger de peur d'être en retard ici pour la classe. On lui a donné un sandwich afin qu'elle ne défaille pas d'hypoglycémie. Demain, il y a peu de chances qu'elle voie le pédiatre avec ses résultats biologiques, car il y a la pose de la première pierre du grand hôpital pédiatrique financé par les Américains, qui servira sans doute de grand laboratoire de recherche sur le VIH en pédiatrie. Ici, les cas ne manquent pas et rien n'est gratuit. Les chercheurs, surtout, sont en quête permanente de cohortes de malades pour leurs travaux. Et je dois dire que l'aide qu'on leur apporte, souvent, sans qu'ils s'en rendent compte, sans qu'ils en aient conscience, et sans que aussi les autres, les chercheurs, ils servent vraiment de terrain. Moi, j'ai assisté à ça. Ils servent vraiment de terrain d'expérience. Parce que là-bas, évidemment, il y a beaucoup de cas, puisqu'en plus, ils n'ont aucune exigence. Donc, voilà, si vous voulez. Donc, pour vous dire, voyez un peu les émotions que nous pouvons vivre. Et cette jeune fille, donc, était parrainée à une amie, l'association, on était même allé la voir au domicile. Elle avait un domicile, bon, un peu plus décent que la jeune fille dont je parlais la semaine dernière. Elle vivait dans un genre de cage à lapin avec sa grand-mère. Mais depuis, elle est décédée. Elle n'a pas survécu. Elle était dans un tel état. Donc, ça a été le grand chagrin pour tout le monde. Mais, si vous voulez, voilà. C'était pressenti. Et puis, c'était il y a quand même quelques années, puisque c'était dans mes premiers séjours. Et depuis, peut-être qu'on a fait des progrès en traitement, encore que ici, on est à la quatrième ligne, comme on appelle. Et là-bas, je crois qu'ils en sont seulement à la deuxième. C'est-à-dire que le VIH virus devient résistant et il faut chaque fois réadapter et reprendre du... Et donc, à la fin de ce séjour, au retour, c'était... Donc, je concluais, partout, il y a de la vitalité, de la curiosité qui masque les détresses sociales et les drames. C'est vrai qu'il faut pas se tromper là-bas. Tout le monde a souvent le sourire. Quand on vous demande à quelqu'un s'il va bien, on vous dit un peu, ça peut aller, ça va aller, ça ira. Donc, ça veut dire qu'en fait, non, ça va pas si bien que ça. C'est pour se aider entre la sale maladie d'eux-mêmes ou de leurs proches, la mort qui rôde dans la réalité sociale ou dans les angoisses réalistes d'un fléau qui ne fait pas, et j'ai pas vraiment. Il faut bien aller chercher ses ressources au fond de soi pour pouvoir jouir de ces fragiles et fabuleux instants de rencontre. C'est-à-dire que c'est une formidable leçon pour nous. occidentaux qui avons trop de tout. On s'en rend compte peut-être pas tout, souvent, et malheureusement c'est vrai. Et ben quand on revient, déjà quand on y est, on va chercher des ressources en soi pour continuer à avancer et pour aussi pouvoir se calquer sur cette joie de vivre qui, dès qu'on peut soigner sa maladie et qu'on a un peu de nourriture, on est heureux. Là-bas, c'est l'Afrique, c'est ça, hein. Et pouvoir aller chercher sa ressource et pour pouvoir aussi la mettre en pratique et l'utiliser. Et donc, je concluais. Et puis, il a bien fallu m'arracher à ces lieux, à tous les miens, entre guillemets, tous ces êtres qui savent si bien dire leur affection et oublier la dureté de ses conditions, en offrant ce bien précieux qu'est leur sourire, que tant d'Occidentaux leur envient, tant qu'ils viennent piller les regards du regard ou de l'objectif photographique. C'est nos frères humains, quoi. C'est-à-dire que souvent, et d'ailleurs, après, au fur et à mesure de mes séjours, je me rendais compte qu'ils devenaient de plus en plus réticents pour les photos, parce qu'ils se rendaient compte que les gens utilisaient les photos pour à des fins des fois lucratives aussi, hein, parce que on a des formidables photos là-bas, quoi. Et donc, me revoilà dans le froid, sans la poussière, avec le confort. Mon corps y est, ma tête un peu, mais une partie de mon cœur et de mon âme sont restées là-bas, auprès d'eux, et mon devoir est de témoigner de l'injustice et d'un fossé qui ne cesse de grandir entre deux mondes dont la fracture s'aggrave, que ce soit au sud et au nord. Il n'y a pas que la banquise qui se détache, disais-je à ce moment-là. Alors, simplement une petite remarque, avant peut-être que vous interveniez aussi, Guylaine, c'est que quand je parlais de la banquise qui se détachait, je crois que ça s'est pas beaucoup arrangé, mais au fur et à mesure des années où je retournais là-bas et où la situation s'améliorait pas vraiment, la situation chez nous, en France et en Europe et en Occident, ne s'arrangeait pas vraiment. Et ça, nous le vivons actuellement. Voilà, il y a une pandémie, il y a des conditions qui viennent nous rappeler que, voilà, en fait, on peut aussi être dans des pays riches et ne pas avoir à manger. Mais au moment où j'avais écrit ce texte-là, nous étions encore dans une illusion que tout serait bien dans notre monde. Alors, je ne sais pas si vous avez des remarques à faire ou des questions.
Ces soins liés au sida, ils sont toujours d'actualité. C'est toujours un traitement qui est donné. C'est toujours une nécessité pour l'association d'intervenir par rapport au sida.
Oui, malheureusement, comme je disais la semaine dernière, il y a un homme qui a déboulé. D'ailleurs, la présidente m'a appelé directement. Bon, on correspond par WhatsApp, hein, donc elle m'a appelé directement. Et d'ailleurs, j'ai eu tout de suite les photos et tout. De ce père qui arrivait avec ses trois enfants, qui avait le sida, les trois enfants avaient le sida, le petit dernier qui avait 3 ans n'avait pas de traitement pour lui, il n'y a pas de traitement pédiatrique pour des si jeunes enfants, et la femme, la mère était partie, parce qu'alors à ce moment-là, souvent c'est le père qui part, mais là c'était la mère qui avait abandonné cet homme avec ses 3 enfants, et ils étaient dans le dénuement le plus total. Donc très rapidement, nous avons envoyé un petit peu de quoi les aider. Et nous avons trouvé une marraine, donc c'est une amie à moi qui a accepté de parrainer les 3 enfants, qui lui avait les moyens. Et pour dire, et ça continue, et comme je disais aussi, c'est que, en plus, maintenant, il y a des, comme le paludisme qui devient résistant, il y a aussi le virus, le VIH, qui devient résistant aux premières lignes de traitement. Ils n'ont pas toujours les moyens d'avoir le traitement adapté. Puis il y a des effets secondaires, il y a des maladies adjuvantes. Bon, on parlait tout à l'heure, on parlait de la pneumonie de la jeune fille qui a le sida, mais voilà, c'est la pneumonie et la tuberculose aussi. Il y a, bon, moi j'ai vu une fois, j'ai été dans un taxi, il y avait une maman dans le taxi là-bas. Bon, ils s'arrêtent et prennent beaucoup de monde ensemble, hein, pour avoir un peu les moyens, quoi. Et il y avait une maman, on était à l'arrière avec sa fille sur les genoux. Devant, c'était une dame qui faisait office d'infirmière. Elle est arrivée de l'hôpital et cette petite fille était en train de mourir, quoi. Elle avait le sida, la rougeole, et puis je crois du palud, enfin, non. Et visiblement, et cette maman était très angoissée parce qu'elle sentait bien que c'était la fille. Donc, il n'y a pas de, si vous voulez, il y a des associations, il y a des prises en charge. Il y a aussi quand même de la prévention qui se fait parce qu'ils sont très actifs là-bas. Vous savez, on n'a pas toujours besoin d'aller leur donner des leçons en ce qui concerne tout ce qui concerne l'information, la diffusion, la communication. Ils sont très, très doués. Après, quelquefois, ils ont besoin plus d'infrastructures ou des fois de conseils techniques. Mais il y a une grande, grande prévention qui se fait. Il y a des associations qui sont devenues très actives, dont AED, quand même une référence au pays là-bas. Mais il y a, ça reste quand même un fléau. Même nous, on a bien dit qu'il y avait une recrudescence en France du VIH. Donc voilà, si vous voulez, c'est vrai que voilà, on n'est pas, ils ne sont pas. Mais il y a eu une organisation de la société civile et il y a une interpellation vraiment régulière, générale, notamment de la présidente de l'AED, qui a un rôle officiel dans la représentation internationale des personnes vivant avec le VIH, et qui interpelle les gouvernements et les internationaux. Voilà, mais ça reste précaire, et puis il y a cette pauvreté qui est terrible. C'est terrible, quoi.
Qu'en est-il de la pandémie?
Alors, la pandémie, là-bas, ben, ça reste actif quand même aussi. Alors, j'ai pas les derniers chiffres, mais je sais qu'encore il y a de quoi faire, sauf que, bon voilà, la différence, c'est que quand même, il y a un hôpital de jour qui fonctionne bien, qui avait été financé par la mairie de Paris à l'époque, qui accueille les gens, qui fait que quand même il peut y avoir des traitements assez rapides, le traitement a beaucoup, le coût du traitement est devenu presque très abordable, même si c'est encore trop cher pour les gens trop pauvres, hein, vraiment, mais enfin voilà quoi, c'est vraiment il y a, je crois, encore, alors j'ai pas les derniers chiffres, mais je sais que c'est pas terrible, c'est pas terrible du tout, c'est vraiment même encore assez alarmant, quoi. Hein. Nous, si vous voulez, ça fait plus de 20 ans que l'association existe, et pour l'instant, on ne peut pas envisager d'arrêter, même si par moment on est fatigué, ou je suis fatiguée, ou même par moment on a du mal par moment à recruter, ou même ne serait-ce que des adhésions, hein, si les gens nous aident bien, ou des parrains, des parrainages, pour vraiment qu'on aille. Mais si vous voulez, il y aura des questions qu'on les abandonne, parce que c'est encore trop crucial. Mais ce qu'il y a eu par rapport au début, il y a eu une très belle organisation. Et là, actuellement, nous les avons aidés beaucoup. À l'époque, on les avait aidés. Ce qu'on a fait, tout est très long. On se plaint ici du temps. C'est là-bas, tout est très long. Et on les avait aidés il y a une dizaine d'années à acheter un terrain. Ils ont été expropriés depuis. Ils ont dû réenvisager un autre, etc. Mais ça a été très compliqué. En plus, là-bas, l'histoire des terres, vous achetez un terrain, puis vous appartenez que, enfin, parce qu'avant, les terres, c'était les chefs de terre qui les distribuaient, ils appartenaient à tout le monde et à personne. C'était un temps donné. Maintenant, il y a des terrains qui appartenaient à la famille, machin, etc. Donc, ça fait plus de 10 ans. Et enfin, là, nous avons financé aussi, avec d'autres gros bailleurs de fonds, alors plus que nous, un centre de santé communautaire qui va ouvrir là, ces jours qui viennent. Le chef de l'État doit rencontrer la présidente, là. Et normalement, il va y avoir quand même une subvention du ministère de la Santé. Parce qu'il se prévoit d'accueillir, je ne sais pas combien de milliers de personnes dans un quartier très pauvre, et pas seulement pour le VIH, mais aussi pour plein d'autres pathologies, voilà, qui sont adjuvantes, ou qui de toute façon dessinent la population.
Nous nous retrouverons, Marie-Claude, pour continuer de voyager au Burkina avec, en nous appuyant sur votre blog, au cœur de SIA, sur le site Unitaire. Pour l'heure, vous nous avez choisi un morceau musical pour conclure cette émission en musique, comme d'habitude.
En musique, voilà. Alors, comme justement, bon, mon amour de l'Afrique, de l'Afrique ne s'arrête pas au Burkina, même si j'ai beaucoup là-bas. Je vous ai programmé un morceau que j'aime énormément et qui plaît à tous les amis africains, de quelque type qu'il soit. C'est Pierre Akendenge, qui est un grand compositeur musicien gabonais, qui a été d'ailleurs ministre de la Santé, et qui a, je crois, démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec le président du Gabon. Et donc, cette Pierre Akendenge, ça s'appelle Africa Obota, et vous allez voir, il parle de toute l'Afrique, il n'oublie aucun pays. Voilà, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, Guylaine, au revoir à tous nos auditeurs, et à bientôt.
Au revoir, Marie-Claude, à la semaine prochaine.
l'inghilione lingo, e l'inghilione lingo, e l'inghilione lingo, no, vincebo, vincebo. Amori wawani bogweli, na wabomba atomika, tango revolution, obu de liberté. Ndondo aninde, golando, golando, visebo. Haulin komba yomo Afrika, ne kapange unité. Ndoningo, ndoningo, asapili unité. Akawi abunjem, akawi nchuwa o,